Radio Divan. Pour une psychanalyse populaire,
l'émission de Guylaine Dubois
et Lucas Bielli,
produite et réalisée par
FM+. Bonjour à tous, bonjour Lucas.
Bonjour Guylaine.
Nous allons évoquer aujourd'hui le lien entre la psychologie et le sport, autrement dit la psychologie sportive et la préparation mentale du sportif. On le sait, un sportif acquiert une compétence physique dans sa pratique et un entraînement physique associé à une habileté mentale permet au sportif d'atteindre peut-être sa performance tout en préservant son équilibre global. Pour avancer sur cette thématique de la préparation mentale du sportif, nous recevons aujourd'hui Alexandre Almarcha, étudiant en école de préparation mentale à Bordeaux. Bonjour Alexandre.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci à vous d'être venu nous rejoindre dans les studios de Radio FM+. Alors Alexandre, une première question sera votre chemin qui vous a conduit jusqu'à ce choix de préparateur mental du sportif.
Alors, moi, j'ai toujours baigné dans le sport dès mon plus jeune âge. Alors, j'ai fait un peu des sports bateau, on va dire, natation, un peu d'athlétisme, du foot. Et c'est à l'âge de 8-9 ans que je me suis mis au handball. Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai toujours suivi ce cursus, ce double projet, comme on appelle ça, sport et études.
Sport-études. D'accord, exactement. Dès l'âge de 14 ans.
En troisième.
Quand en troisième, ça commence, d'accord.
Et puis, ce qui m'a permis en première, parce que je suis originaire de Lyon, moi, et ce qui m'a permis en première d'aller à Valence, à la section sportive, et donc de continuer ce cursus un peu plus pointu en sport-études, voilà, première terminale. Et après, j'ai continué à Valence avec des études de sport, parce que j'ai fait STAPS. Je suis licencié STAPS aujourd'hui, et j'ai toujours été dans ce double projet études et sport de bon niveau quand même, parce que je jouais à niveau, quand j'étais jeune, au plus haut niveau, nos jeunes, au moins 18 championnats de France, on appelle ça, et au niveau adulte, au niveau national, ce qui est quand même un bon niveau et qui demande quand même un investissement personnel. Voilà.
Cela, handball, dans la section de handball, hein ?
C'est ça, en fait, je faisais mes études de STAPS. Et à côté, j'étais à l'équipe de Valence.
De Valence,
une
dans
équipe,
le handball.
C'est ça, dans le handball. Équipe espoir, parce qu'il y avait une équipe une de professionnels. Là, c'était l'équipe espoir, donc l'équipe jeune. Et après, toujours avec le sport, donc avec le handball plus précisément, j'ai changé d'équipe. Ça m'a permis de partir sur Nice aussi, où j'ai continué à jouer tout en terminant ma licence STAPS. Et c'est après, avec toujours ce goût de transmettre, que j'ai toujours voulu... Enfin, j'ai fait le diplôme d'entraîneur pendant 2 ans. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur de handball toujours à côté de Nice, donc à Villeneuve-Loubet. Et je me suis dit... comment après je suis arrivé à la prépa mentale, je me suis dit, là, je suis coach dans le hand, je leur apporte les conseils techniques, tactiques, un petit peu physique aussi, parce qu'avec la licence, j'ai des notions de préparation physique. Mais c'est vrai que moi-même, en étant jeune, quand j'ai été jeune joueur et même un petit peu adulte, j'ai toujours eu des blocages, comme par exemple la peur de faire mal, ces choses comme ça, la peur de perdre, qui fait que des fois, j'étais pas complètement détendu pour jouer. Et donc, en fin de compte, je jouais pas pleinement, j'étais pas forcément optimal. Et moi, quand j'entraîne, j'ai vu ça avec mes joueurs et je me suis dit, il faut, si je peux, c'est maintenant que je peux les aider. Donc, allons vers cette prépa mentale. Et donc, je suis allé dans une formation certifiée par l'État, parce que c'était important pour moi d'avoir quand même quelque chose de reconnu. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le métier de prépa mentale, c'est pas un métier purement reconnu. Donc, sans même avoir forcément de diplôme ou quoi, on peut se prétendre prépa mentale, donc c'est toujours un peu compliqué. Donc c'était important pour moi déjà d'avoir cette formation qui était certifiée par l'État. C'est la formation, donc si on peut dire son nom, c'est Soyez Pro, ça s'appelle. Pro qui veut dire P pour poser, donc on est vraiment dans le calme. l'esprit calme, jouer détendu, voilà. R pour respirer, respiration, et O pour observer. Donc voilà, s'observer, être à l'écoute d'une observation sans jugement. Voilà,
un peu ce qu'est ça. Une observation de soi-même.
De soi-même et aussi des autres en tant que préparateur mental. Mais de soi-même en tant que sportif. Et c'est ça qui m'a emmené à la préparation mentale et je suis mon cursus de formation actuellement.
Lucas, déjà un commentaire sûrement.
Oui, alors j'aimerais revenir aussi sur l'anagramme du pro, donc avec le R pour la respiration au milieu. On le sait, la respiration déjà physique est très importante, mais aussi laisser respirer un peu ses idées ou avoir du recul dessus pour pas se laisser engloutir ou, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avoir peur de blesser, avoir peur de perdre, avoir ce petit temps de réflexion. Toute cette philosophie aussi sûrement que vous devez aussi apprendre, moi ça me fait aussi penser à cette fameuse phrase de Bruce Lee qui disait « Be water my friend », un peu « laisse-toi aller dans le courant », me fait fortement penser à ça aussi. Et donc c'est pour, voilà, la formation que vous faites est uniquement dirigée dans le sport ou ça s'ouvre à d'autres disciplines ?
Officiellement, elle s'appelle « Préparation mentale à la performance du sportif ». Mais bien sûr que dès qu'il y a de la performance à tous les niveaux, que ce soit chef d'entreprise, dès qu'on veut faire quelque chose, artiste, dès qu'il y a la performance et donc dès qu'il va avoir un peu des gènes mentaux qui peuvent arriver, que ce soit la gestion des émotions, une peur quelconque, bien sûr que ça rentre en lien et que finalement ce que là j'apprends là, je peux le mettre en lien avec d'autres branches que le sport. Voilà.
Un musicien virtuose, par exemple.
Tout à fait.
Qui demande qu'il faut des capacités de concentration.
C'est ça, qui peut avoir peur, par exemple, de jouer sur scène devant tant de personnes. Ça peut aussi... il peut avoir des choses qu'on peut aborder ensemble, c'est sûr. Ouais.
Alors, vous avez déjà prononcé 3 fois le mot peur. Est-ce que c'est une émotion que vous avez repérée chez les sportifs, notamment ?
On va dire que c'est l'émotion, la pensée qui revient le plus. Vraiment la peur chez le sportif qui va provoquer plusieurs sensations sur le corps, puis d'autres pensées, des doutes, etc. Mais c'est vraiment la peur, on la retrouve le plus souvent chez le sportif. Ouais. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent.
Alors, dans cette formation, quelles sont les techniques que vous apprenez justement pour contenir cette peur ou peut-être la dissiper? Quelles sont les techniques que vous allez utiliser, que vous allez vous utiliser ensuite?
Alors, en termes d'outils, pour tout ce qui est peur, croyances, parce que la peur vient aussi beaucoup des croyances, c'est d'abord vraiment la connaissance de soi. Avant d'utiliser des outils, avant qu'on parle vraiment d'outils, alors il peut avoir bien sûr la respiration, la méditation, un petit peu de on peut avoir de la sophro aussi, même si on n'est pas sophrologue, mais on a des bases un petit peu, enfin en tout cas on apprend, en tout cas encore en cours, des bases de sophro, on appelle la sophronisation. Tout ça sont des méthodes, l'ancrage visuel, voilà, c'est des techniques. Mais avant, il y a une vraie part de connaissance de soi, déjà du sportif, entre préparateur mental et sportif, et on va l'aider à ça, pour lui, déjà, son identité, ses valeurs, ses vrais besoins, tout son environnement, là, dans le monde sportif, le staff technique, son entraîneur, comment on voit les choses, et puis, ce qui est très important aussi, c'est le rêve du sportif, finalement, et là, on parle vraiment de rêve, des fois, on laisse un peu l'esprit enfant, mais rêver, c'est quand même important. Et c'est ce qui pousse le sportif, finalement, à avoir cette discipline, une discipline naturelle, sans faire d'efforts, sans forcément sacrifice. Donc déjà, la connaissance de soi est hyper important. Donc son identité et la connaissance de soi, je rentre aussi, je l'ai déjà dit, on l'a déjà évoqué, l'observation.
Oui.
Donc s'observer soi aussi, observer ses pensées, ses émotions, tout simplement, et aussi dans quelle situation finalement je me sens bien, je me sens pas bien, et ça c'est quand même essentiel. Donc c'est vraiment la première étape. Et puis j'avais noté une citation aussi de Confucius qui disait « Celui qui ne peut pas décrire le problème ne trouvera jamais la solution à son problème ». Et c'est ça aussi, je trouve, l'observation, c'est mettre des mots sur ce que je ressens, sur ou pas d'ailleurs, mais sur des problématiques. Et déjà mettre des mots, ça permet de se libérer. C'est un peu ce qui rejoint aussi la psychanalyse.
J'allais me tourner vers mon collègue Lucas pour lui dire, mais est-ce que ce n'est pas un futur collègue, Alexandre Almarcha?
Eh bien, toutes les voies mènent à Rome.
C'est ça. Alors, est-ce que, pour un peu recentrer ma question, justement, vous avez parlé de sophrologie, est-ce que vous allez, par exemple, aussi utiliser des techniques comme l'hypnose, comme le yoga, comme j'avais aussi la PNL? Est-ce que vous allez un petit peu piocher dans toutes ces techniques-là? Parce que la connaissance de soi, finalement, c'est vaste. Il y a beaucoup de moyens d'accéder à cette connaissance de soi. Une simple méditation, enfin simple... méditation, par exemple, pleine conscience, qui est aujourd'hui beaucoup utilisée, mène aussi à cela.
On peut utiliser, c'est ça, le prépa mental, c'est plein d'outils qu'on va aussi piocher dans différentes disciplines. Alors, il va y avoir des prépa mentales qui vont être un peu plus spécialistes de la sophrologie, d'autres de l'hypnose, par exemple, ou encore de la PNL, ou même du yoga. Moi, c'est vrai qu'à travers la formation, on fait des expériences, enfin c'est plutôt des petites expériences d'un peu de tout ça. Donc la sophro, voilà, c'est de la sophonisation où on va chercher à faire un vrai lien entre le corps et l'esprit, reposer, pour chercher le calme avec des pensées positives, etc. Ça peut être de ce sens-là. Le yoga aussi, qui est quand même essentiel. Et du coup, c'est vrai que je me suis mis au yoga un petit peu. Mais c'est vrai que... Et puis, dans le yoga, on va retrouver aussi la respiration, le fait d'être calme, d'être concentré sur ses gestes, pour aussi sortir de sa zone de confort, etc., de pas s'arrêter juste à la simple douleur. Donc, juste des petites choses comme ça. Mais surtout, ce qui va être le plus important, c'est le sens qu'on va donner avec le sportif. Et c'est pour ça que, avant de parler d'outils, c'est important de connaître le sportif, sa personnalité, ses ambitions, ses motivations, pour permettre, même s'il peut avoir des erreurs, et puis c'est normal de pas avoir le bon outil au bon moment, mais pour se dire, voilà, ça marche un peu plus, tout simplement.
Est-ce qu'on attend de vous que vous meniez le sportif de haut niveau, par exemple, déjà à des résultats qui seraient exceptionnels ou qui dépasseraient ce qu'il a déjà accompli? Est-ce qu'il va s'adresser à vous parce qu'il veut aller plus loin?
Il peut. Généralement, aujourd'hui, quand le sportif fait appel à un prépa mental, c'est déjà parce qu'il a des problèmes. Parce que déjà qu'il ressent quelque chose, mais même sans avoir de problème, on peut travailler dans la continuité sur l'identité déjà du sportif, continuer à travailler sur ses valeurs, sur ce qu'il veut, aller plus loin même dans ses rêves, dans ses ambitions, donc tout un travail, et puis continuer à travailler sur les leviers de la performance qui sont le calme, la concentration, le détachement, la gestion des émotions, l'estime de soi. Ça, on peut le continuer à travailler avec le sportif, même s'il n'a pas forcément de problématique, pour justement qu'il continue qu'il ait cet équilibre entre prendre du plaisir, il sait où il va, mais il a toujours cet aspect de compétition, il va chercher ses propres résultats. Ouais.
Lucas ?
Oui, non, mais comme vous l'avez dit, c'est pas bien de parler d'outils de premier abord, si je vous prends une sculpture, on ne va pas sculpter pareil du marbre ou de la glaise, par exemple, on ne peut pas... faire n'importe quoi, prendre un outil et à chaque fois se forcer de prendre le burin pour taper sur la glaise, vous n'allez pas y arriver sinon. À côté de ça, un mot que vous avez employé qui est très important, c'est l'équilibre et au final se connaître soi-même pour savoir quel peut être l'équilibre vers lequel je peux tendre. Tenir un équilibre tout le temps, c'est impossible, mais en tout cas tout faire pour être à peu près autour de ce cercle d'équilibre, quelque chose de fondamental en tout cas, je trouve.
Ouais, tout à fait, puis par exemple si je prends le calme, des fois, si on a un sportif qui est trop calme, trop mou, parce que le calme en prépa mental, c'est vraiment cette capacité à être vigilant, attentif, un état qui permet ça. S'il est trop, par exemple, mou, on peut, une des techniques, ça peut être justement d'aller aller chercher son autre polarité, c'est-à-dire d'être complètement excité, et puis pour que lui, il trouve cet équilibre. Parce que pour trouver un équilibre, finalement, il faut tout explorer, quoi. Donc, il faut se permettre... permettre des choses, oser tout simplement, pour peut-être faire des erreurs, mais se rééquilibrer tout simplement.
Est-ce qu'il y a est-ce que vous pourriez citer des sportifs qui ont utilisé cette préparation mentale et qui ont pu servir de, comment dire, presque de publicité pour votre métier?
Il y en a énormément dans le tennis, comme Djokovic. Djokovic, vraiment... c'est celui qui, je pense, qui est vraiment un, enfin, pas un fondateur, mais enfin, je veux dire, une grande image de la préparation mentale, lui en tout cas. Mais là, comme ça, beaucoup dans les sports individuels. Ça commence dans les sports collectifs petit à petit. Là, je pense au rugby notamment. Après, il y a quand même des sportifs dans le sport collectif qui peuvent prendre leur propre préparateur mentaux. Ça, c'est sûr. Mais beaucoup dans le sport individuel. Le tennis, le golf, en tout cas beaucoup. On le retrouve même moi dans ma formation. Les sports qui sont le plus représentés, ça reste le tennis, le golf, enfin pas mal de sports individuels, la natation. Aussi, mais là comme ça, prépa mental et grand sportif, je dirais Djokovic, ouais, vraiment.
Et on a Teddy Riner aussi, il me semble.
Oui, Teddy Riner, ouais. Ouais, ouais.
Il en avait parlé.
Pour les JO, il avait dit que ça faisait à peu près depuis l'âge de 14 ans qu'il se faisait suivre par un psychologue du sport, ouais. Donc cet aspect mental est important.
Il y a aussi ce côté-là, moi, que je me rappelle de cette interview-là, c'était une petite dame, il dit, mais elle fait partie de la famille en fait maintenant. Après tout ce temps, sa psychologue, c'est sa...
Sa
préparateur mental, ouais. c'est tout ça, quoi.
Alexandre, vient le moment de la première pause musicale. Qu'est-ce que vous nous avez proposé ?
Moi, j'ai un rapport avec la musique toujours un peu positif, vraiment qui me permet... là, il y a deux titres. Il y a le Sunny Days, plutôt positif. Moi, en tout cas, quand je l'écoute, ça me met de bonne humeur. Voilà. Et l'autre morceau qui moi me met un peu dans un état un peu de concentration, voilà, où je suis bien apaisé. Donc voilà, c'est ces morceaux là que j'ai choisi.
Donc on commence par Sunny Days.
Et pourquoi pas.
Sunny day, mm-hmm. It's so bright, so bright, so bright. It's a sunny day, mm-hmm. It's so bright, so bright, it's so bright. It's a sunny day.
sur Radio Divan aujourd'hui avec Luca Bielli et notre invité Alexandre Almarcha qui fait une formation de préparateur mental à l'intention des sportifs dans une formation bordelaise qui s'appelle Soyez Pro. Alors nous avons écouté votre choix musical, Alexandre, Sunny Days, qui en effet est très détendant, je ne sais pas, voilà, ça nous met dans un état de légèreté. Et nous avons, dans cette première partie, un peu vu comment, quelles étaient les disciplines qui vous permettaient de préparer le sportif pour qu'il soit dans le meilleur, dans ses meilleures conditions possibles. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est ça que qu'on appelle, d'une façon un peu populaire, la force mentale ?
Je dirais que quand le sportif a du mental, enfin le mental, comme on le veut pour le sportif, pour qu'il soit performant, c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est ma définition, hein, évidemment.
C'est vraiment vous qui êtes là, hein.
le lien entre le corps et l'esprit, vraiment, c'est la libération du potentiel de l'athlète. C'est-à-dire que de tous les apprentissages qu'il peut faire, que ça soit technique, tactique, et même l'apprentissage physique, finalement, et par physique, c'est vraiment athlétique, voilà, qui vont être justement, le mental va être au service de la performance pour justement faire le lien avec tous les apprentissages et qu'au bon moment, il va pouvoir être totalement détendu pour sortir le plein potentiel de tout ce qu'il aura, de tout ce qu'il aura appris. Mmh. Tout simplement, il y a plusieurs, on va dire, leviers de la performance. Comme j'avais cité, le calme, la concentration, le détachement, la gestion des émotions et l'estime de soi, qui font que quand tous ces leviers, on est à l'équilibre avec tous ces leviers, effectivement, on peut dégager son plein potentiel. Après, est-ce qu'on va gagner à tous les coups ? Ça, non, bien évidemment. Mais en tout cas, on peut dégager son plein potentiel. Voilà. Mais c'est aussi plus simplement aussi le fait de se dépasser, d'avoir cette envie de se dépasser, sortir de sa zone de confort. Ça rejoint un peu ce qu'on s'était dit tout à l'heure, avec une pleine motivation, cette envie de se dépasser, elle se fait naturellement. Mais il faut aussi avoir ce mental, finalement, et être au clair avec soi-même, où est-ce qu'on veut aller, et pour puiser, finalement, dans toutes ces ressources, etc.
Lucas, une réaction ?
Donc nous sommes sur le mental d'un sportif qui pour moi est un peu différent de ce que je pourrais dire de l'état d'esprit qu'on pourrait avoir même dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire de pas essayer d'apprendre de la vie tout simplement. Si l'état d'esprit peut aussi donner une bonne direction au mental pour le renforcer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point de vue-là ?
Par état d'esprit, ça, vous pensez à quoi par état d'esprit ?
Par exemple, si on est face à l'adversité. Être dans un état d'esprit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, soit d'avoir peur ou d'être défaitiste, mais plutôt d'être dans un apprentissage perpétuel, ce qui peut empêcher des blocages et renouveler un petit peu une énergie sur laquelle on peut capitaliser au fur et à mesure.
Là, comme ça, si j'ai bien compris la question, on peut par exemple sur le détachement, se détacher du résultat, de se dire qu'il y a toujours... ça reste qu'un sport, finalement, par exemple. Mais le détachement vis-à-vis du résultat, de sa performance brute, et se concentrer plus sur, on appelle ça vulgairement des objectifs de maîtrise, donc beaucoup plus sur la qualité de ce qu'on propose que plutôt le résultat même. Et finalement, c'est beaucoup plus sain sur le long terme, en tout cas pour le sportif. Mais bien sûr, c'est là où l'équilibre équilibre entre en compte, c'est... Oui, il faut être il faut faire attention à comment on le fait, la gestuelle, etc. Mais c'est aussi important de vouloir avoir envie de gagner. Parce que, si on vient juste pour faire participation, c'est pas le but non plus de se dire on prend que du plaisir.
C'est en fait
challenge perpétuel de la recherche du plaisir dans la compétition et aller au-delà de ce qu'on pouvait penser qu'on était capable, etc. Aller au-delà de tout ça pour atteindre ses objectifs ou aller plus loin. Parce que pour parler d'objectifs aussi, c'est un peu... tout dépend le sens que met le sportif. Mais c'est aller plus loin et le détachement est vachement important pour ça.
ce que je comprends dans ce que vous nous avez exposé aussi, c'est qu'au fond, le potentiel est à physique, le sportif là, il s'est entraîné, il a pratiqué des années et des années, il a toutes les capacités pour le faire, sauf qu'il y a des freins qu'il ne peut pas maîtriser.
Exactement.
Tant que il n'a pas justement cette connaissance de lui-même. D'où vient cette peur? Est-ce qu'elle vient de l'enfance? Est-ce qu'elle vient d'une peur traumatique? Est-ce qu'elle d'où vient cette émotion comme ça de ne pas vouloir faire mal? Et je rajouterais sûrement la psychanalyse comme outil d'approche pour en effet défaire ces irrationalités qui pourtant ont une origine rationnelle mais qu'on ne détecte pas tant qu'on n'a pas cette connaissance de soi.
Bah, c'est vrai qu'on va, alors on va en prépa mentale, on va peut-être pas aussi loin, mais en tout cas lors de notre première rencontre, c'était un peu les liens qu'on avait faits entre finalement la préparation mentale, comme je peux la voir, et la psychanalyse, le fait d'observer, cette observation sans jugement, alors observation par nous on observe aussi par la pratique tout simplement, mais aussi l'observation dans l'écoute. Une écoute vraiment attentive, sans jugement. On ne cherche pas à savoir si les croyances de la personne sont vraies ou pas, mais plus si elles vont être limitantes ou aidantes pour la personne.
Et, leur impact c'est sur ça. La personne.
Leur impact même sur la personne et, et nous-mêmes. C'est pour ça que là, dans la formation, il y a un gros travail sur nous-mêmes, même aussi. C'est qu'on doit être totalement détaché de tout ça. Et nous, ça, en tant que préparateur mental, ça ne doit pas m'atteindre. En tout cas, tout ce que je peux échanger avec le sportif, c'est vraiment lui. Et lui, est-ce que ça va l'aider ou pas? Et moi, ma pensée finalement vis-à-vis de sa croyance, elle a pas lieu d'être. En tout cas, donc c'est pour ça que ça rejoignait beaucoup la psychanalyse. C'est ça, une écoute neutre et attentive. Ouais.
Et neutralité parce que nous-mêmes, nous avons travaillé sur nous-mêmes en sachant que
Exactement.
On accueille.
Le travail sur nous-mêmes est hyper important parce que suivant la situation que peut avoir un sportif, si j'ai par exemple un sportif qui a peur de mal faire, ce qui a pu être mon cas, si moi je me remets dans mes émotions, si je commence à avoir des émotions, je peux ne plus être lucide, ne plus forcément l'écouter et louper ce qu'il va dire, peut-être un mot important qu'on va pouvoir redéfinir ensemble, retravailler et vraiment trouver la vraie problématique et l'outil qui va vraiment correspondre. Donc c'est pour ça que la neutralité, l'écoute sans jugement est très importante et c'est primordial.
Ne pas tomber dans le contre-transfert en quelque sorte, Guylaine.
C'est ça. Alors, vous aviez une question, je crois, Lucas.
Oui, concernant votre formation, donc surtout, on a parlé de tous les aspects qui peuvent être techniques. Dans votre accompagnement à l'après, est-ce que vous pouvez nous dire, ça serait ma première question, donc comment ça se passe la préparation pour l'après? On sait qu'aujourd'hui on fonctionne beaucoup avec les réseaux sociaux, la mise en réseau, ce genre de choses. Et la seconde question concerne, comment est-ce qu'on fait pour contacter un coach du coup en développement?
Pour la première question, déjà que c'est vrai que cette formation et ce qui peut changer d'une formation, parce que il y a plusieurs formations à la préparation mentale, il y a ce côté universitaire, il y a des diplômes universitaires, un master psy-coach, ça s'appelle à Montpellier, il y en a qu'un pour l'instant à Montpellier, je crois qu'il y a un deuxième ouvert à Orléans, mais je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a en tout cas cette formation universitaire, et après il y a des formations plutôt privées. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a tout de suite plu dans cette formation, dans les formations en tout cas en général, c'est qu'au niveau de la pratique et du contact finalement et du réseau qu'on peut se faire, c'est un peu plus important que peut-être une formation universitaire. Et en plus, c'est vrai qu'avec cette formation qu'on a à Bordeaux, on a accès au réseau sportif des SUAPS. Donc c'est les étudiants qui font du sport à côté de leurs études directement, et donc on est une vingtaine de stagiaires là dans la formation, et donc chaque stagiaire a son sportif, donc il y a des basketteurs, des surfeurs, tennisman et golfeurs, voilà, si je n'oublie pas. Donc voilà, ça déjà c'est vraiment très, je trouvais ça très, enfin vraiment le plus important, d'avoir déjà pas un réseau mais l'accessibilité à la pratique, en tout cas dans la formation. Et après, pour l'après, c'est aussi aux stagiaires et aux futurs préparateurs mentaux de se faire son propre réseau à travers à travers son propre sport aussi et il y a un site internet directement sur Soyez Pro qui recense tous les préparateurs mentaux en tout cas qui sont passés par la formation pour tout simplement les contacter plus directement aussi voilà. Si j'ai bien répondu à la question pour l'après. Et après, pour rechercher un préparateur mental, alors je sais qu'il y a, il y a le site Soyez Pro donc, qui recense ses propres préparateurs mentaux. Il y a une vraie communauté, etc. Donc, il y a les communautés, tout simplement. Il y a aussi la Société Psychologie du Sport française. C'est vraiment ceux qui sont recensés en tant que psychologue du sport. Où ils recensent les psychologues du sport, les préparateurs mentaux. Il y a ça aussi. Après, je pense, en tout cas, ce que je regarde sur Internet, c'est assez accessible. Si on tape préparateur mental, on peut avoir du résultat, en tout cas.
D'accord.
Alors vous, Alexandre, vous nous l'avez dit, vous avez été quasi professionnel en handball. On n'est pas professionnel.
Un peu loin, mais en tout cas niveau national.
Niveau national,
un bon niveau,
voilà.
Ouais.
Est-ce que vous allez apporter vos compétences dans le sport que vous connaissez parfaitement ou est-ce que vous allez plutôt être multidisciplinaire? Comment vous voyez un petit peu votre sortie d'école en juin 2024?
Je la vois comme une double casquette, d'abord dans mon sport, parce que je suis entraîneur aussi avant tout.
Oui, à Frontignan,
handball, chez les jeunes, dans la catégorie jeune. Donc moi déjà, en tant qu'entraîneur, moi-même, le travail que j'ai pu faire sur moi-même pour être déjà un meilleur coach, et en plus, ce que je peux apporter à mes joueurs, au niveau mental, que ça soit par moi, mon propre discours, ou par aussi des petits exercices que je peux leur proposer durant toute la saison. Donc il y a vraiment cette partie, oui, de faire évoluer moi ma pratique sportive, dans le handball en tout cas, et aussi d'être sur plusieurs sports, parce que finalement le mental il est le même pour tout le monde.
Ouais.
Les problématiques sont différentes, mais le mental est même pour tout le monde. Et donc sur différents sports, là c'est vrai que je suis actuellement une basketteuse, je suis aussi une sportive dans l'équitation. Voilà. Mais finalement, on a des problématiques qui se rejoignent, de stress, de frustration, de tout ça. Donc, plusieurs casquettes, en tout cas plusieurs sports, mais rester aussi dans mon sport, le handball en tant qu'entraîneur.
Alors, pour un sport collectif, n'allez-vous pas devoir prendre en considération aussi toute l'équipe, justement, même s'il y a 15 sportifs qui vous demandent? Ou alors, est-ce que vous allez avoir une pratique, sur le travail de groupe? Enfin, comment? Une pratique systémique, on pourrait dire? Je ne sais pas.
C'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir fait d'abord un travail sur soi. Parce que sur un sport collectif, un sport d'équipe qui puisait, la relation, le relationnel est hyper important, l'environnement est hyper important. Donc déjà la cohésion du groupe, et puis accepter son statut. Le comprendre, donc le savoir, son statut, et l'accepter, c'est aussi hyper important. Déjà en tant qu'entraîneur, de clarifier les choses, pour que les joueurs l'acceptent et que même les joueurs entre eux acceptent leur rôle. Donc il y a tout ce relationnel et cohésion de groupe qui est à prendre en compte dans un sport collectif. Et après, plus individuel, comment le joueur se sent dans l'équipe? Est-ce que ses valeurs sont similaires à l'esprit de l'équipe? Ses objectifs, ses ambitions sont similaires à l'esprit de l'équipe? Il y a tout ça qui est à prendre en compte. Un véritable projet de jeu qui doit se faire. Je parle plutôt au niveau adulte, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas au niveau des jeunes, c'est un peu plus différent vu que c'est de la formation pure. Mais en tout cas, au niveau adulte, il y a un véritable projet de jeu qui doit être vraiment complémentaire et fait ensemble avec l'entraîneur et les joueurs pour que ça soit adhéré, qu'il y ait une totale adhésion. Quoi.
C'est ça. Du groupe, Lucas.
Et oui, j'aimerais revenir sur un point important, celui de la transmission. Quels sont, parce que souvent, on vient tous, on est tous ici parce qu'on nous a transmis des choses et on transmettra tous des choses, soit qu'on le veuille, soit qu'on ne le veuille pas, mais c'est ainsi que va l'humanité depuis la nuit des temps. Quelles sont les valeurs, vous, les plus belles que vous ayez pu recevoir, qu'on a pu vous transmettre, et celles que vous souhaiteriez transmettre?
Je pense que les valeurs les plus belles, ça reste le respect, vis-à-vis d'autrui, mais aussi la détermination, aller jusqu'au bout de soi-même, vraiment dans la difficulté. Ça c'est pour moi, en tout cas dans le sport, en plus c'est important et c'est primordial si on veut aller chercher on veut aller chercher la performance, et la pédagogie aussi. Moi, je l'ai appris au fur et à mesure. Ça, on me l'a transmis au fur et à mesure. Mais la pédagogie avec cette envie de transmettre. Je trouve que ça soit un entraîneur ou même un professeur, hein, finalement, quand il a toujours cette envie de transmettre, finalement, ça adhère. Enfin, la personne adhère beaucoup plus. Et ça passe par une pédagogie et je trouve ça très important, en tout cas.
Merci, Alexandre.
Merci à vous.
Al-Marsha, merci Lucas Bielli. Nous, on se revoit la semaine prochaine.
Avant de nous revoir, est-ce que nous avons une dernière musique à écouter ensemble ?
Mais bien sûr, j'allais le dire, cher Lucas.
Eh bien, allez-y.
J'allais proposer la musique d'Alexandre, Living Life in the Night, de Sherry Imoya, Sierra Kid.
Tout à fait, ouais, une musique avec... un tempo plutôt un peu plus lent que ce qu'on a pu écouter.
Planant, mais voilà.
Ouais, c'est ça. C'est, ce serait le mot, vraiment posé. Et voilà, un peu plus posé, mais qui permet. Moi, je mettrais un peu concentré. Moi, je suis concentré dans cette musique. Mais voilà.
Très bien. Merci. Merci beaucoup, merci Alexandre. Merci Lucas. À très bientôt.
Can't be right. Call my brother, he in prison doing time, but we alright. Tried my best just to catch a fucking smile, but for now I see myself ain't hitting the 35.
Been awake for days,
so we out living life in the night. Pray to God, man, I hope I don't die. I've been awake for days, so we out living life in the night. Pray to God, man, I hope I don't die in the night. Lord knows, and I think I know it too. Sometimes, every time, and they reach out.
Seven little shots can't be right. Call my brother, he in prison doing time, but we alright. Tried my best just to catch a fucking smile, but for now I see myself ain't hitting the 35.
Been awake for days,
so we out living life in the night.